Émission spéciale, lancement de la dernière tranche du quartier Grand Canal à Clamart. Un événement FH Immobilier, Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, c'est un projet d'orfèvre, si je peux me permettre cette assertion. L'orfèvre, c'est un programme pour FH Immobilier à Clamart, le projet du Grand Canal à Clamart, nouvelle résidence, un nouveau quartier, pour vous faire découvrir. L'idée, c'est de vous donner des images, de vous apporter de l'information, mais aussi de vous donner envie d'y aller, de voir un peu ce fabuleux projet, qui est un véritable morceau d'architecture, j'allais dire même un geste magnifique d'architecture et d'aménagement du territoire, comme on le souhaite, pour une ville apaisée, pour une ville harmonieuse, dans le Grand Paris, qui est souhaité par tous les franciliens. Nous avons souhaité réunir des professionnels du secteur qui nous permettront de découvrir un peu plus avant ce grand projet. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aude Desmazières. Bonjour Aude.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Aude, vous êtes directrice de programme chez FH Immobilier en Ile-de-France.
Exactement.
Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir également Delphine Boutier. Bonjour.
Bonjour.
Ça va Delphine ?
Ça va très bien.
Voilà, directrice opérationnelle en Ile-de-France pour FH Aménagement.
Exactement.
Voilà, on expliquera d'ailleurs cette notion d'aménagement qui donne, était un peu le préambule à toute construction, puisque avant de construire, il faut d'abord aménager, bien évidemment. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Géraud Duhard. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Géraud ?
Très bien.
Alors, directeur opérationnel chez FH Immobilier en Ile-de-France également.
C'est ça.
Voilà. Vous avez chacun, d'ailleurs, une partie, bien évidemment, vous, c'est on va commencer par vous, puisque c'est l'aménagement de ce projet. Quand on parle de ce projet, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme premier mot, comme première phrase ?
L'ambition du projet, la vision partagée avec la ville du devenir de ce quartier.
Vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'est très juste, ambition partagée avec la ville. D'ailleurs, on va écouter le maire qui d'ailleurs regrette de ne pas pouvoir s'être déplacé. Il nous a reçu gentiment lors d'un reportage où il va nous parler de ce fabuleux projet. C'est un projet concerté, hein. C'est un projet, il faut le rappeler, avec les élus locaux. Et vous, Aude, qu'est-ce qui vous inspire ?
Un projet qualitatif et un ensemble de projets qualitatifs, puisque nous avons déjà livré quelques résidences et nous continuons à en construire et l'orfèvre sera la suivante. Toutes ont été menées par des cabinets d'architectes de talent et de renom.
Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un geste architectural intéressant d'ailleurs, dans lequel l'espace, la perspective, le vert, l'eau, ont été vraiment, vraiment sauvegardés dans le projet architectural. On le voit très nettement.
Tout à fait.
Alors, il faut rappeler aussi que l'orfèvre, donc, c'est une des dernières parties du programme qui sera livrée, puisque c'est ce qu'on appelle de la VEFA, de la vente en état futur d'achèvement, livrée en 2025. C'est bien
exactement.
Ça.
Exactement. C'est le dernier lancement et ce sera le dernier projet en construction et en livraison.
Voilà. Et ça part plutôt bien, on peut le dire.
Oui.
Merci en tout cas d'être avec nous pour en parler. Géraud, le sentiment, l'envie, je sais que vous êtes un passionné du métier. C'est magnifique comme projet.
Oui, c'est un très beau projet. Pour moi, le mot qui me vient, c'est mixité. Parce que il y a deux parties dans cette mixité. La mixité d'usage. On voit, tout le panel de logements, du logement en accession, du logement social, de la résidence gérée, résidence étudiante, résidence senior. Et puis aussi mixité d'usage avec des commerces en pied d'immeuble, avec des services, une école, une crèche. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on aime faire, c'est-à-dire un quartier où on a envie de s'installer, on a envie d'y vivre, on se projette bien parce qu'on a tout de suite, tout prêt à disposition, les choses dont on a besoin dans la vie courante.
Alors si je devais reprendre vos trois phrases, on va dire que c'est une ambition ou la mixité de grande qualité. Donc
c'est bien résumé.
Finalement, et à tout point de vue, bien évidemment, ça inaugure. Alors on s'est permis, si vous voulez bien, avant de démarrer l'émission, et le sommaire, les amis, vous verrez d'ailleurs, les séquences seront découpées, vous pourrez vous y intéresser. On vous a fait des superbes images, vous allez voir, c'est magnifique. Notamment cette tour Pentagone, qui était une tour historique, de bureau qui était
l'ancien siège du groupe Bouygues,
oui, qui était le siège du groupe Bouygues, qui était c'était un monument emblématique. C'est même le monument totem de cette formidable aventure urbaine de Paris et d'Île-de-France. au siège de la tour Pentagone. Et de voir cette tour comme ça avec la démolition, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. On va commencer justement par cette genèse du projet avec vous, Delphine, et puis ensuite, je vous propose qu'on développe avec vous. Et bien évidemment, je vous invite les amis à réagir, à liker, à poster, à commenter, et surtout à vous y intéresser. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ce reportage qu'on est allé tourner. C'est notre amie rédactrice en chef Fabienne Lissac, accompagnée d'Alexandre Burkhardt, le caméraman et réalisateur. Nous avons été reçus à l'Hôtel de Ville, chez Jean-Didier Berger. C'est vrai qu'en ce moment, avec les élections, ça a été un peu chaud au niveau du Conseil régional. Il a pris une vingtaine de minutes pour nous recevoir, parce qu'il défend vraiment ce projet. Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, Delphine. C'est un projet concerté avec les élus locaux. Je vous propose qu'on l'écoute.
Quand j'ai été élu à Clamart en 2014 avec mon équipe municipale, il y avait sur ces terrains un projet de Leroy Merlin. Ce n'était pas exactement le sens de la ville moderne qu'on imaginait. Donc j'ai demandé à Eiffage et à ceux qui finalement étaient au départ de ce partenariat de renoncer à leur projet et d'imaginer avec moi un vrai quartier à vivre, quelque chose de beaucoup plus équilibré, qui soit une façon de restaurer l'image de la commune sur cette colonne vertébrale qui est la 906. Donc on a imaginé tout un tas de projets, l'enfouissement des lignes à très haute tension, la construction de ces deux quartiers de développement durable, dont le Grand Canal, la rénovation du rond-point du Petit Clamart, puis également la démolition-reconstruction d'un autre quartier. Et on a mis tout ça au sein d'un contrat d'intérêt national que j'ai signé avec l'État pour accélérer les dossiers de la ville et faire en sorte que ces dossiers sortent de terre le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que Grand Canal est né. Quand on est arrivé, il y avait également 25% de taux de vacances de bureaux. Donc la démolition d'un certain nombre de ces bureaux vides ou quasi vides était devenue totalement incontournable pour faire ce renouvellement urbain. Et donc la tour Pentagone, avec 50 000 m² mais 25 000 m² vacants, était devenu totalement inévitable. Et à la place, on a tout un projet avec des bureaux, avec des commerces, avec du logement social, du logement privé, une école, un gymnase, un vrai quartier de ville, un vrai quartier de vie qui est en train de naître. Et donc, en quelques années seulement, on voit cette métamorphose s'opérer. L'idée, c'était de réunir au même endroit tout ce qui fait la force de l'innovation actuelle, à la fois sur la qualité des logements, sur la durabilité, y compris en matière de façon de se chauffer. L'école, elle est consacrée aussi plus spécifiquement à l'apprentissage des langues étrangères et au numérique. Les programmes qu'on développe sur la ville sont des succès commerciaux, ce qui fait qu'il y a une vraie dynamique qui s'instaure. Les prix augmentent, mais assez doucement et au fur et à mesure, parce que les gens sont au rendez-vous de la qualité de développement qu'on fait dans les quartiers, au rendez-vous de la qualité architecturale aussi, la qualité à l'intérieur des logements. Et donc on solvabilise un maximum de ménages qui peuvent acheter, trouver l'appartement de leurs rêves et devenir propriétaires dans d'excellentes conditions sans se ruiner. Mettre de la culture partout et en particulier dans les projets d'aménagement qu'on développe, c'est une priorité pour la commune. Mais je dirais, au-delà, il y a toute une démarche artistique dans la qualité architecturale qui est recherchée, dans la façon dont les aménagements sont faits et en lien avec le développement durable. Parce que culture et développement durable sont deux notions qui marchent parfaitement ensemble. L'eau, la présence de l'eau aussi, et puis de la nature en ville sont des points particulièrement importants dans ces projets qu'on veut très peu denses. On est en général sur les projets de Clamart sur un cos de 1, donc beaucoup plus faible que dans la majeure partie des quartiers parisiens qui sont pourtant très prisés par les investisseurs et par les habitants de façon plus générale encore. Donc ces quartiers finalement très peu denses, ils se prêtent très bien à la présence de l'art. C'est important pour nous d'avoir une qualité dans tous les domaines, y compris sur la question du chauffage. Et puis, il y a aussi les nouvelles réglementations qui, de toute façon, sont très contraignantes et imposent aux constructeurs d'avoir des modalités très développement durable en matière de chauffage. Donc, cette chaudière biomasse qui nous a été proposée à Grand Canal, elle répondait parfaitement à ces préoccupations. Et on travaille déjà sur les futurs projets à aller encore plus loin pour associer les pompes à chaleur, la géoénergie, la géothermie, le solaire. Comment faire en sorte de concilier toutes ces énergies pour faire en sorte de ne pas être dans une forme de décroissance qui sacrifierait le confort, mais au contraire d'être dans un confort qui soit compatible avec le respect de l'environnement. Et on voit que ce territoire, Vallée Sud Grand Paris, cette intercommunalité, elle a un très fort potentiel de développement. Clamart, par exemple, une ville de 50 000 habitants, a une densité 4 fois inférieure à nos jumeaux de Montrouge, qui sont également 50 000 habitants, mais sur 4 fois moins de kilomètres carrés. Donc si on était aussi dense qu'un Montrouge, on serait plus de 200 000 habitants à Clamart. C'est là où on voit qu'on a une vraie marge de manœuvre. Et avant qu'on passe de 50 000 à 200 000, il y aura plusieurs maires qui vont se succéder, plusieurs siècles peut-être, qui vont s'écouler. Et en attendant, ça nous permet d'avoir une ville qui se développe, qui est dans une vraie dynamique de vie et une dynamique aussi fiscale et financière pour parvenir à faire davantage de services sans augmenter les impôts de nos concitoyens, ce qui est très important pour moi, et le développement de Grand Canal comme des autres quartiers que nous concevons. Quand nous sommes arrivés en 2014, tout le monde ne croyait pas au développement de la commune. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs comme FH qui ont fait le pari de la confiance, qui se sont dit, oui, on voit qu'il y a une vision, on voit qu'il y a un vrai potentiel derrière ces projets urbains qui sont portés par l'équipe municipale et par le maire. Et donc, ceux qui, au début, nous ont accompagnés les premiers, aujourd'hui, s'en félicitent, je crois, parce que comme le succès commercial n'est jamais démenti, eh bien, tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, tous les acteurs de la place de l'immobilier souhaitent venir investir à Clamart et développer de nouveaux projets avec nous, ce qui nous permet d'accélérer encore les choses et puis peut-être d'imaginer des projets plus ambitieux encore que ceux qu'on aurait pu imaginer il y a une dizaine d'années maintenant.
Merci à Jean-Didier Berger et merci à la réalisateur Alexandre et Fabienne, la journaliste. Jean-Didier Berger dit la chose suivante, je reprends un peu ce qu'il dit. Il parle d'une densité urbaine ultra maîtrisée. Hein. C'est vrai que quand on compare à Montrouge, c'est juste 4 fois moins. Mais il rappelle que, justement, FH a fait le pari, finalement, de l'accompagnement avec la collectivité. Il a parlé de vision immobilière, du projet. Mais il a aussi intégré, et c'est intéressant de le signifier, le facteur économique. Parce que sans une économie saine, profitable et rentable, il ne peut pas y avoir de projet. Donc je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit le maire qui dise le projet commercial de vente, c'est jamais démenti. Quand vous l'entendez, le maire, Delphine Boutier, est-ce que ça couronne finalement tous les efforts que vous avez faits pour accompagner la collectivité dans ce projet ?
Bah, c'est surtout un ingrédient absolument indispensable pour pouvoir mener à bien ce type de projet urbain et ce renouvellement des quartiers. Jean-Didier Berger le disait, on était sur un secteur de zone d'activité sur l'entrée sud de Clamart. Et l'ambition, c'était d'offrir du renouveau avec un ingrédient important. On le voyait sur les images tout à l'heure, c'est l'arrivée du tramway. Et on sait bien que les infrastructures de transport, et là pour le coup, on profite en plus d'une station de tramway au pied du quartier, sont des éléments absolument déterminants pour pouvoir
avec le tramway, on est dans Paris en combien de temps?
Alors là, on est sur la ligne 6 du tramway qui d'un côté nous mène à Vélizy en une quinzaine de minutes et de l'autre côté Châtillon, la ligne 13 du métro également en 15-20 minutes. Donc non. Ça, c'est un ingrédient déterminant
alors,
de la transformation.
Alors déterminant et un bassin d'emploi gigantesque parce que c'est une grande zone et dans laquelle on n'aura pas 3 heures de transport à faire, aller et retour chaque jour, comme beaucoup de franciliens. Et avec, on en parlera tout à l'heure, des prix qui sont extrêmement importants, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui nous posent des questions sur les prix. Je vous dis, attendez un peu, on vous donnera des informations tout à l'heure sur différentes configurations. Ce qui est très intéressant, et je vais demander à notre ami Jason de nous mettre, et vous allez nous commenter, c'est qu'on revoit l'image de la démolition de cette tour Pentagone. Moi, c'est spectaculaire, hein, vous êtes d'accord? On va la revoir. Jason, on va la mettre. Voilà. Delphine, c'est un projet considérable. C'était le siège historique de Bouygues.
Oui, exactement. Donc cette implosion, elle a eu lieu à l'été 2020, au sortir du confinement. Donc d'un point de vue technique, administratif, et voilà, il a fallu s'activer pour pouvoir mettre en œuvre cette démolition un petit peu particulière. C'était au-delà d'un choix qu'on a fait, c'est surtout la technique qui s'est imposée parce qu'on était sur plusieurs niveaux de parking. Voilà, les quatre niveaux de sous-sol qui ont été déconstruits avant l'implosion. Je pense que ce qu'on peut aussi constater à travers les visions aériennes de la démolition, c'est le quartier dans lequel s'insère Grand Canal. Mmh. On est dans un quartier d'activité en, en renouveau et de fait, le projet Grand Canal, bah, c'est aussi voilà, venir intégrer du logement à proximité des emplois. Et c'est aussi la vision qui était développée à travers ce, ce projet urbain. Sur la, la, la démolition en tant que telle, hein, ça faisait de nombreuses années que cette technique n'avait pas été en, employée en, en Île-de-France.
J'ai vu que vous récupériez des matériaux là.
Alors ça, c'est un fil conducteur qui, de toute façon, a été suivi sur toute l'opération. Là, il n'y a pas un camion de béton qui soit sorti à l'issue de la démolition. On a réutilisé voilà, la totalité des bétons concassés. C'était, c'était notre, notre souhait. Et sur la question du réemploi au sens large sur l'opération Grand Canal, ça a été aussi le cas des terres qui étaient excavées pour la réalisation des parkings. On a fait en sorte d'en garder une très grande partie sur, sur site. C'est à la fois
C'est impressionnant hein, quand on voit ça. Vous y étiez, vous y avez assisté?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Non mais c'est
ah, c'était un moment d'émotion.
Vous
très
étiez
clair.
Aussi. Ça doit être impressionnant. C'est des artificiers spécialistes hein, qui font ça.
On était entouré, je vous le confirme, d'une équipe experte, voilà, qui nous ont accompagnés et ce qui est voilà aussi une des marques de fabrique, c'était Eiffage Démolition qui participait à ce projet.
C'est extraordinaire. Là, le prochain chantier, vous m'invitez, je veux absolument voir ça de mes propres yeux. Je trouve ça impressionnant, l'équilibre. Vous avez une tour qui est emblématique, qui tenait...
En quoi, 15 étages.
En 3 minutes, même pas.
Ah non,
secondes.
On a du mal à compter le temps quand on est sur place, pour tout vous avouer. Je pense qu'en une dizaine de secondes, c'était
réalisé. Il y a un bruit réalisé. Comme ça autour, parce qu'on n'a pas vu le son, mais...
Il y a un bruit, ouais. Il y a surtout un grondement, et puis après, un nuage, et on se demande si tout est bien par terre. Mais oui, c'était le cas.
C'est extraordinaire. Moi, vraiment, il y a quelque chose de presque onirique dans cette façon de voir les choses. Ensuite, c'est un projet... On l'a rappelé tout à l'heure, le projet de l'Orfèvre, c'est la dernière partie d'un grand projet qu'on va l'appeler Grand Canal. Effectivement, l'Orfèvre, c'est la dernière partie du projet. On parlait avec vous, Aude, qui sera donc livré, vous me dites, en 2025. En 2025. Et je vous propose aussi que vous nous commentiez les images. C'est vos équipes qui ont fait ça. Ils ont fait un time-lapse. C'est-à-dire, vous savez, les amis, ce sont des images accélérées du projet d'aménagement avec la construction. C'est incroyable. Voilà, on va regarder quelques images.
Oui, on va les voir. Bah là, on revoit effectivement des images de la démolition. Alors certes, moins spectaculaire que celle de la...
Là, on est dans le cratère. Là, c'est le cratère. Le cratère, c'est l'endroit où était la tour.
Non, là on était sur une autre partie du quartier, oui. Puisque au-delà de la tour, il y avait d'autres immeubles de bureaux qu'on voit se faire grignoter. Voilà, la démolition, c'est même si c'était spectaculaire pour la tour, c'est pas forcément toujours la partie noble du métier. C'est évidemment ce qui vient après qu'on souhaite mettre en avant. À travers ces quelques images, ben on voit tout le travail assez fin en fait d'organisation de chantier qu'on doit faire, et ça en partenariat avec les équipes d'Eiffage Immobilier. Donc c'est un peu toute la force de notre coopération à l'intérieur du groupe, hein, exactement. Et ce qu'on voit tranquillement se dessiner, ben c'est effectivement l'emprise des futurs bâtiments et des espaces publics. Donc là, ces images-là, elles ne mettent pas forcément encore en valeur la qualité de ce qui a été produit, mais entre 2017 et aujourd'hui 2022, ben on est sur un quartier maintenant qui vit avec des habitants, des espaces publics à vivre et qui sont le reflet de l'ambition dont on parlait tout à l'heure.
Delphine, on va voir justement, c'est vous qui allez nous commenter.
Oui.
Voilà le résultat finalement. On le voit.
Exactement. Alors, on a fait faire cette vidéo effectivement au moment de l'implosion de la tour, mais on voulait mettre en avant tout le projet sur ces 6 hectares à l'entrée sud de la ville de Clamart. Donc s'il y avait quelque chose à décrire, c'est l'identité de ce projet à travers une architecture art déco, années 30. Les images parlent d'elles-mêmes, avec une présence de l'eau un peu partout. On a un bassin d'agrément qui aujourd'hui est en eau et vit avec un bel espace public. Et puis Grand Canal, ce ne serait pas Grand Canal sans son canal, qui va également être mis en eau, on l'espère, au mois de juin prochain. Voilà, présence de l'eau à la fois pour l'agrément, mais également pour des questions environnementales, puisque le bassin qu'on voyait tout à l'heure permet de récupérer les eaux de toiture des bâtiments. Extrêmement important. Absolument. Le groupe scolaire, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, ça fait partie de ce qui fait vivre un quartier. Il y a une crèche également en matière d'équipement qui va permettre d'apporter du service. Et puis, à terme également, un gymnase et des commerces. L'eau, on en parlait, voilà, avec également des fontaines en entrée de quartier. Et puis ces façades commerciales le long de la route départementale. L'ambition environnementale du projet, on en a parlé avec la réutilisation des matériaux, mais c'est aussi cette chaufferie biomasse qu'on a...
Alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, la biomasse...
La biomasse, on fait brûler du bois, je vais le vulgariser voilà. tout simplement comme ça, et ça permet d'avoir, là, pour le quartier, 60% d'énergie renouvelable.
Dans ce que vous dites, je retiens ce que disait Jean-Didier Berger tout à l'heure. Il parlait de... On va en parler ensemble, mais la biomasse... Le solaire, ce sont des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, quand vous chauffez avec du bois, vous faites consommer du bois, c'est une énergie qui est renouvelable et c'est un stock, puisqu'on replante du bois systématiquement, peu importe les essences qu'on utilise, le sujet, c'est que c'est renouvelable. Et ça, c'est un pari gagnant, parce que ça permet aussi d'envisager une structure tarifaire, on va dire budgétaire, qui est beaucoup plus intéressante pour les Français, et Dieu sait que c'est d'actualité, avec l'explosion des matières premières et notamment des factures d'énergie.
Oui, tout à fait. Ça permet de maintenir la trajectoire de la facture énergétique. Et j'imagine qu'aujourd'hui, voilà, c'est assez déterminant dans le choix d'une acquisition.
Moi, je reprends vraiment votre terme de trajectoire de la facture énergétique parce que je peux vous dire que bien malin celui qui pourra imaginer ce que seraient les factures dans le futur. Mais en tout cas, le fait que vous ayez imaginé ce mode-là permet de sécuriser le parcours. J'allais dire, peut-être sans paraphraser, que c'est quasiment une acquisition qui redonne du pouvoir d'achat. Voilà, qui redonne du pouvoir d'achat. Merci beaucoup Delphine, vous restez avec nous pour cette partie. Je vais passer à vous Géraud. Géraud, vous avez participé, vous êtes un peu le manœuvrier, l'architecte ou l'assistant, la maîtrise d'ouvrage, le maître. Enfin, vous avez participé à toutes les étapes. Il y a de quoi être fier quand on voit le résultat aujourd'hui et quand on voit ce que va devenir cette dernière partie d'un projet global dans lequel vous êtes inscrit à plusieurs niveaux. Vous avez parlé d'effage construction, d'effage aménagement, effage immobilier. Vous êtes sur toute la chaîne de valeur. Et donc, quand vous voyez ces résultats, qu'est-ce que ça vous évoque? Et expliquez-nous un petit peu ces étapes qui ont mené à la réalisation finale de ce projet.
Avant tout, c'est beaucoup de fierté, finalement, de pouvoir participer. Je crois qu'on on le partage tous autour de la table. La fierté de travailler sur un quartier qui va vraiment sortir de terre complètement et fierté du travail accompli en équipe parce que finalement être en capacité de sortir plus de 2000 logements dans un temps record c'est...
Combien de temps à peu près
on va faire peut-être une dizaine d'années entre les premiers lots.
Première acquisition 2015 tout à fait.
Voilà, donc il faut imaginer plus de 2000 logements en 10 ans, c'est un temps très très court et ça ne peut se réaliser que parce que...
Extrêmement court.
Ouais. Ah oui, c'est très court et c'est, on arrive à le faire parce que justement on a cette synergie très forte entre les différentes équipes du groupe et qui nous permet de pouvoir sortir les projets en étant en limitant au maximum les zones de frottement et de pouvoir dérouler nos projets en les enchaînant tant commercialement que dans la construction que dans l'organisation des différents sujets de gestion des terres. On l'a parlé de la démolition. Donc effectivement, grande fierté d'être en capacité de sortir une opération de cette envergure, ouais, avec ce niveau de qualité.
Parlez-nous des choix architecturaux, de la configuration, de l'espace, des appartements. On est d'accord que c'est majorité résidentielle. Vous avez parlé beaucoup... Alors c'est important ce que vous dites, parce que la mixité, vous le savez, c'est aujourd'hui ce qui attire, ouais, les Français. Aujourd'hui, dans les projets publics, il n'y a pas une municipalité, un EPCI, une région, un département qui ne vous challenge pas sur la mixité fonctionnel, social, parce que je sais que l'accès au logement et aussi il y a des réserves qui sont faites dans le cadre de dispositions de logements dits sociaux entre guillemets, j'aime, oui, pas trop le terme, mais voilà, qui permettent à des personnes de se loger et de pratiquer la mixité. Comment vous l'avez conçu? Je veux dire, le choix architectural est un choix beau, esthétique.
Oui, tout à fait. Alors, l'ambition, c'était de partager ce fil conducteur de l'art déco au niveau architectural, mais après, ouais, de garder quand même une singularité de chacun des bâtiments sur l'opération. Et donc, c'est pour ça que le choix a été fait de choisir des architectes différents sur chacun des bâtiments pour qu'il y ait une touche, une spécificité.
Je comprends. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'uniformité.
Non, parce que voilà, ce qu'on voulait, c'était à la fois quelqu'un qui se sente de Grand Canal et en même temps se dire, je suis de tel bâtiment ou de tel.
Donc, du coup, il y aurait eu comme un collectif d'architectes qui aurait dit, moi, j'ai bossé sur le projet Grand Canal dans 10 ans, 15 ans, 20 ans.
C'est ce qu'on voudrait, effectivement. Ouais. Et avec cette ambition d'avoir cette unité, mais de ne pas être en capacité de pouvoir forcément identifier l'hôtel de la résidence étudiante, de la partie logement en accession, d'avoir vraiment ce sentiment d'unité de quartier avec des singularités, des matériaux, mais toujours cette vraie identité de quartier qui est pour nous très importante parce que c'est ça qui fait un peu le vivre ensemble dans le quartier, qui fait cette unité des gens qui vont vivre et participer.
C'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je suis, comme beaucoup le savent, j'aime beaucoup la philosophie. Et Albert Camus disait le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Et donc en fait, vous avez pris et on utilise le mot singularité, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une unité architecturale, tout en ayant cultivé la singularité de chaque bâtiment.
Oui.
Ça, c'est un choix qui est extrêmement intéressant. L'espace en lui-même, il a été pensé de la même façon pour le bien-être et le bien vivre. Est-ce que dans le projet, bien évidemment, il a démarré bien avant la crise du Covid, on est d'accord là-dessus. Bien. Mais déjà, vous avez anticipé les mouvements. Vous aviez déjà anticipé, par exemple, les réglementations, la complexité, notamment en matière de chauffage, par exemple, d'énergie. Oui. Vous savez qu'on va être frappé d'une nouvelle règle qui s'appelle la RE2020. On a mis un E à la place du T.
Oui.
Avant, ça était la réglementation thermique 2012, d'accord. Maintenant, ça s'appelle la réglementation environnementale 2020. D'ailleurs, j'ai même échangé avec Benoît Apparu, qui était l'auteur, finalement, en quelque sorte, qui était aux affaires, de l'RT 2012, en disant j'aurais dû imaginer quelque chose de plus global. Même ça, vous l'avez anticipé.
Oui, en fait, il y a eu une ambition dès le début.
Vous avez pris de l'avance, en fait,
Oui, il y avait une ambition d'être un peu un projet phare qui soit un petit peu en avance sur son temps. Donc, effectivement, il y a maintenant 7-8 ans, se lancer dans une chaufferie biomasse, c'était ambitieux. Se lancer dans des projets qui vont faire la part belle aux espaces extérieurs, puisque c'est quelque chose, aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais c'est vrai qu'avant, on était plutôt sur...
Le Covid est passé par là.
Oui, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, j'étais encore en bulle de vente le week-end dernier, les gens disent, moi, je cherche... un T2, enfin un 2 pièces ou un 3 pièces avec espace extérieur en étage élevé. Bon, voilà, donc c'est-à-dire qu'on essaye de répondre, on avait anticipé cette demande de faire la part belle aux espaces extérieurs, de travailler nos aménagements publics, de travailler nos espaces verts au sein des lots, parce que effectivement, on va dire que la crise du Covid nous a donné raison, mais effectivement, on a ces habitants qui vont finalement passer beaucoup plus de temps dans leur logement, parce qu'ils vont y travailler également.
Très juste.
Et donc cette notion de qualité de l'espace, elle est primordiale.
Est-ce que la pièce à vivre, elle a été pensée plus grande par rapport aux normes habituelles ? Ou vous avez intégré dans la pièce à vivre cette notion d'espace extérieur pour justement lui donner de la perspective ? Parce que dans ce que vous dites, et c'est ce qui ressort de la crise du Covid, ce qui ressort le plus quand on parle aux Français aujourd'hui, c'est la précarité au niveau de l'espace. Et il n'y a rien de plus stressant que le confinement dans la précarité de l'espace. Et en fait, l'espace est un luxe, dans une certaine mesure, parce que dans l'espace se dégage une perspective, donc on respire. Et beaucoup de Français ont fait connaissance avec leur logement pendant le confinement. Et oui, ils partaient tôt le matin, ils rentraient le soir pour bosser, et puis ils se sont retrouvés. Je peux vous dire que quand vous avez 40 ans, que vous avez deux gosses en bas âge, et que vous devez télétravailler, je peux vous dire que c'est pas facile quand vous avez que 65 mètres carrés, 80 mètres carrés. Donc la notion d'espace extérieur est importante. Est-ce que ces notions-là, vous les aviez déjà anticipées, bien évidemment, dans cet espace? Mais quand vous parlez avec les élus, quand vous échangez, il n'y a plus photo, quoi. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, quoi.
Ah aujourd'hui, ils veulent de l'espace extérieur et ils veulent des résidences aérées pour pouvoir respirer, se sentir bien.
Est-ce que ça prime plus que le parking, par exemple, si je devais faire une comparaison?
Alors, on a quand même encore un attachement assez fort quand même au parking, mais là, je prends l'exemple du dernier lancement commercial. On a mis en place des celliers. C'est une petite nouveauté qu'on a faite parce qu'on s'est rendu compte aussi que les gens étaient vraiment intéressés à avoir un espace.
Tout le monde avait un cellier dans le geste artistique. Si vous prenez pendant les premiers bâtiments qui ont été construits par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, la période où il fallut loger notamment toute la ceinture parisienne, la RATP, etc., il y avait des celliers partout. Des celliers partout. Et là, finalement, c'est intéressant
d'avoir... Finalement, on revient sur des choses qu'on a pratiquées. Voilà, et là, on
c'est cellier en remplacement d'une cave ou c'est cellier...
Non, c'est les celliers qui sont sur le palier au premier étage et qui permettent d'avoir un espace extérieur de rangement complémentaire et qui sont très appréciés.
Pardon, on n'y met pas les vélos.
Ah non, parce que on a un local vélo, c'est ça, voilà, on a un local poussette au rez-de-chaussée, mais ça permet d'avoir une zone de stockage, une sorte de grand placard annexe qui permet de libérer de l'espace dans son logement pour pouvoir justement avoir être plus à l'aise.
Quels sont les retours qu'on vous fait pour déjà la première partie de ce programme et ce qui est à venir? Vous avez des retours? Alors pour l'instant, le succès se dément pas, on est d'accord.
Ah, commercialement,
ça a marché tout de suite.
Oui.
Et les élus que vous rencontrez, mais toutes les parties prenantes, le résultat, le pari était quand même assez ambitieux.
Oui.
Il faut être très clair, vous l'avez rappelé. Construire 2000 logements en 10 ans, c'est un record en termes de vitesse.
Tout à fait.
Je ne sais pas s'il y a l'équivalent d'ailleurs en Ile-de-France d'un record aussi important.
De cette rapidité avec ce niveau de finition, j'ai pas d'exemple en tête. Mais
alors, et vous avez réussi donc à la fois à maîtriser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modes d'énergie qui ont été promus justement à part le chauffage biomasse?
Alors, le chauffage biomasse représente l'essentiel de la production de chaleur.
Alors, chauffage et eau chaude.
Oui, c'est une production qui permet à la fois d'alimenter la partie chauffage et la partie eau chaude. Et qui a aussi un secours en gaz qui permet éventuellement, s'il y a une problématique un jour d'approvisionnement en bois, de pouvoir prendre un secours en gaz. Mais on va dire que l'essentiel de l'énergie, c'est l'énergie biomasse qui l'amène pour la partie chauffage et eau chaude.
Merci beaucoup, Jérôme. Vous restez avec nous.
Sur la partie servicielle, je voulais juste ajouter quelque chose, qu'on parlait des celliers. Dans le même item, on a mis en place une conciergerie sur le quartier. Voilà. Revient à des choses...
Et ça, quelle forme, la conciergerie?
C'est un service qui est proposé dans le cadre de l'ASL, donc l'association syndicale libre qui réunit toutes les copropriétés du quartier. Et voilà, assez basiquement, une conciergerie avec...
Il y a un espace pour...
Vingtaine de mètres carrés comme un rez-de-chaussée commercial, qui permet d'avoir quelqu'un qui réceptionne son colis, voire qui prépare l'envoi, plus tous les services qu'on peut imaginer, cordonnerie, tous les services de proximité. Donc on revient au basique.
C'est intéressant, justement, Aude, vous qui êtes spécialisée dans le développement commercial, c'est-à-dire que vous vendez et vous les recevez tous les jours, les clients. Quand on fait la somme de ces éléments-là, et d'ailleurs, tout à l'heure, je voudrais qu'on parle aussi du projet Un immeuble, une œuvre.
Oui.
Ça, c'est hyper important. Parce que il y a... J'utilise des formules philosophiques comme ça. Tout à l'heure, je parlais d'Albert Camus. Moi, je voudrais citer Kant, qui disait que le beau est aussi un élément du bien. Peut être un élément du bien. Et à deux niveaux, d'ailleurs. Le bien matériel, mais le bien tout court. Et le bien est accessible à tous. C'est important. Parce que l'œuvre qu'on va voir tout à l'heure, elle est visible de tout le monde. On ne paye pas pour voir cette œuvre. Elle est libre. Quand vous faites la somme de tout... Parce que vous êtes finalement en chaîne... au bout de la chaîne, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà. Du début à la fin du programme, en fait. Oui,
qu'est-ce que vous disent vos clients? Dites-nous un peu, faites-nous les retours.
Alors, nos clients nous parlent de qualité architecturale, beaucoup. Géraud l'a dit tout à l'heure, énormément d'espace extérieur depuis 2-3 ans. Donc, nous visons toujours à lancer commercialement des programmes avec un maximum de loggia, balcons, terrasses. Nous avons beaucoup de demandes de caves que nous proposons soit en cave, soit en cellier complémentaire, exactement, pour pouvoir agrandir son espace de vie à l'intérieur.
C'est cellier donc à l'étage, et une cave
ou cave au sous-sol.
D'accord,
ce qui permet d'agrandir son espace de vie à l'intérieur de son logement et de mettre de côté le stockage qui gêne et qui prend de la place. Le retour de nos clients, c'est surtout le service. Donc on a
le service, il n'y a plus photo.
Donc d'avoir une école au pied de son immeuble presque.
Le tramway, il est au bas de l'immeuble.
Le tramway était au bas de ce grand quartier. Une station était. Ouais.
Combien de temps pour aller vous l'avez dit tout à l'heure.
Une vingtaine de minutes pour aller d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre de
Viroflay ou de Porte de Châtillon. Donc on est près de tout. On est près de Paris. On est près du bassin d'emploi de Vélizy.
Il y a des commerces.
Et nous avons beaucoup de commerces, exactement, en pied d'immeuble. Nous aurons également un gymnase géré par la ville.
Très bien.
Donc on a vraiment une multitude de services pour les habitants qui auront tout sur place.
Alors, ce programme, il est ambitieux. On est sur la dernière tranche, hein. On peut dire comme ça, on se dit comme ça.
Le dernier programme.
Le dernier programme, donc qui prendra fin, sera livré 2025.
Fin 2025.
Là, je vois déjà, ça commence un peu à s'agiter. J'ai sélectionné deux questions qu'on nous a posées. La première, c'est un couple avec deux enfants qui voudraient à peu près dans les 60-70 mètres carrés. Bah, ils disent combien? Ça vaut combien?
Un couple avec deux enfants, nous pouvons lui proposer un 64 mètres carrés, avec un balcon bien sûr, pour environ 410 000 euros. C'est à peu près 6 400 euros du mètre carré, avec un parking bien sûr, un T3, un T3 de chambre.
Ça fait 6 406 euros du mètre, quand on voit les prix, c'est pas extrêmement cher.
Bah, c'est très raisonnable,
c'est plus abordable.
Tout à fait, pour cette proximité de Paris.
La deuxième question qu'on nous pose, justement, comment on fait? Voilà, comment on fait? Est-ce qu'on peut réserver par Internet? Est-ce qu'il faut se déplacer nécessairement?
Alors, vous avez plusieurs solutions, soit par Internet, tout à fait, sur notre site fhimmobilier.com, ou vous pouvez vous déplacer sur une bulle de vente qui est le long de l'avenue Charles de Gaulle, donc d'accord, dans un commerce, justement, parce qu'on y crée du service.
Elle est sur l'avenue Charles de Gaulle,
oui.
À quel numéro?
Au 393 avenue Charles de Gaulle.
D'accord, et on entre de plein pied.
On entre de plein pied et vous serez accueillis par Sylvie. Qui pourrait vous présenter tous les logements disponibles.
Sylvie, si vous nous écoutez, vous allez accueillir des personnes. J'ai une deuxième question. C'est des parents un parent d'élève qui va arriver à Paris dans les années 2025. Donc, il s'y prend un peu à l'avance, c'est bien. Il voudrait faire un investissement pour loger son fils qui est étudiant avec un studio qui fait entre 25 et 35 mètres carrés. Il demande combien?
Pour 220 000 euros, il aura un 30 mètres carrés pour son fils.
Ça fait 7 500 euros du mètre.
Même moins que 7 500 euros du mètre carré. Donc, vous voyez, on est dans des prix tout à fait raisonnables pour une proximité de Paris.
Proximité au niveau des transports, parce que la mobilité, hein, Géraud, c'est ultra important. On me pose une question sur est-ce qu'il y a des charges de copropriété? Et si oui, est-ce qu'on a...
dans tout immeuble. Nous avons des charges de copropriété qui ont été estimées par un grand syndic à 2 euros du mètre carré, chauffage compris. Donc pour un 3 pièces, on est dans les 120 euros par mois de charges, chauffage compris. Donc c'est
pour un
3 pièces.
Pour un 3 pièces.
Voilà, donc c'est tout à fait raisonnable.
Et pour un studio, c'est plus petit,
plus court. Oui, bien sûr, on va être dans les 60 euros par mois.
C'est bon,
chauffage compris. Donc c'est vraiment c'est l'intérêt de développer aussi ce type de chauffage, c'est que les charges derrière sont maîtrisées, ce qui permet
quand vous recevez les personnes, quand on voit le contexte actuel, on se dit mais vous avez eu du nez quoi. C'est vrai, explosion des matières premières. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine n'était pas prévisible, on est d'accord. Mais l'augmentation des matières premières comme de l'énergie, c'était déjà entamé. Hein. Alors là, ça a explosé parce qu'il y a effectivement un effet de rebond qui a été majeur. Mais là, vous avez été... Est-ce que ça veut dire, et ça c'est une question libre que je vous pose à tous les trois, qu'aujourd'hui les nouveaux projets architecturaux, des promoteurs, sont nécessairement dans une intégration de ce type de raisonnement, Aude?
Les promoteurs devront de toute façon être dans l'intégration de raisonnement de la consommation d'eau chauffage et d'eau chaude.
Ça ne se vendra pas. Je caricature, mais je veux dire, s'il n'y a pas ça, c'est pas...
Tout ce que vous ne mettez pas dans vos charges, vous pouvez le mettre dans un appart qui est plus grand. Donc à un moment, le choix est vite fait.
Non, mais c'est même la voie du bon sens, Géraud.
Oui, et puis un autre mot qu'on peut dire, c'est le mot sobriété. Parce que finalement, c'est pas uniquement sur la gestion des charges, ça vient aussi dès la phase amont, dès la phase de conception, arriver à concevoir des logements qui vont limiter les surfaces froides, qui vont permettre de faire en sorte qu'on se soit bien dans notre logement, qui mutualise les besoins. Et ça, c'est très important, parce qu'une fois que le bâtiment, il est construit, il faut le chauffer. Il faut déjà bien concevoir l'objet pour faire en sorte qu'on puisse derrière, avec ce type de réseau de chaleur, être très vertueux.
C'est important.
C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut travailler vraiment sur l'orientation des bâtiments. Géraud le dit parfaitement. Sur la question des réseaux de chauffage, ça peut pas être systématique. En revanche, ce qui est systématique, c'est de vérifier si on peut le faire. Donc il y a la biomasse, il y a la géothermie en Île-de-France qui est beaucoup développée. Donc voilà, ça dépend d'un certain nombre de paramètres.
On n'en parle plus du tout.
On n'en parle plus du tout sur les futurs programmes, sur ce qui vient d'être lancé.
Oui, bien sûr.
Pas aussi nettement, mais en tout cas, de fait, de toute façon, et la réglementation et le bon sens nous incitent à y travailler. Mais voilà, c'est un des ingrédients, mais c'est pas le seul. Cette question de l'orientation du plan masse, elle est aussi déterminante, tout comme la façon dont on va construire et isoler le bâtiment.
C'est important, et souvent on le dit d'ailleurs, c'est le fait de gagner en pouvoir d'achat. Mais il y a aussi un autre élément qui est un élément esthétique. Je voudrais qu'on en parle et je voudrais que vous nous commentiez. Il y a un collectif qui s'est organisé sous la houlette du ministère de la Culture qui s'appelle « Un immeuble, une œuvre ». Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je voudrais que vous nous commentiez, Aude, cette formidable image. Vous avez pris un collectif, alors nous, on les connaît bien, c'est K36. C'est, alors, je vais essayer de prononcer leurs mots, les deux artistes, Coralie et Super Kitsch, c'est ça ?
Super Kitsch.
Non, Super Kitsch, pas Super Kitsch, Super Kitsch. Il a un nom extraordinaire, lui. En plus, c'est Coralie, non pas avec un C, mais avec un K. Deux artistes avec la boîte K36. Notre ami Jonas, s'il m'écoute, je lui fais un petit coucou très sympa. Et Hugo, hein, vous les connaissez, hein, Hugo Menka et Jonas. Alors, je ne me rappelle même plus de son nom. Je sais qu'il a le nom d'un poète suisse extraordinaire. En tout cas, j'aime beaucoup. Je voudrais que vous nous commentiez ces images. C'est incroyable. C'est une fresque monumentale, en fait.
Alors, tout à fait.
On va mettre les images.
Pour précision, donc le Eiffage Immobilier est signataire de la charte Un immeuble, une œuvre, qui a été créée par le ministère de la Culture en 2015. Et donc, nous avons été un des premiers promoteurs à signer cette charte. Et c'est vraiment une charte qui est destinée à promouvoir la création artistique et la rendre disponible auprès du grand public. Donc, nous nous faisons fort d'intégrer des œuvres d'art dans chacune de nos constructions et de nos programmes immobiliers. Et voilà, quartier ambitieux et magnifique, et ben nous avons créé une énorme œuvre d'art qui prend tout un pan de mur d'un de nos bâtiments entre une résidence senior.
C'est quoi, c'est 20 mètres, 30 mètres de hauteur là,
sur cette hauteur-là, tout à fait.
C'est colossal.
Et c'est visible de toutes les personnes qui circulent sur l'avenue Charles de Gaulle à Clamart.
C'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette perspective. On a une perspective qui est magnifique.
Alors, l'architecte avait imaginé l'immeuble avec ce creux et avait imaginé qu'il y ait une œuvre d'art à cet endroit-là.
Donc, quand les clients ils le voient, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça ? Concrètement, ou pas, hein, peut-être pas.
Peut-être
qu'ils s'en fichent, mais bon.
De manière générale, nos acquéreurs sont très sensibles à l'intégration d'une œuvre d'art dans leur ensemble immobilier. Ils ont l'impression d'avoir une œuvre d'art chez eux, qu'on leur offre. Donc voilà, un investissement du promoteur et pour eux et pour un artiste qui permet d'être connu, qui permet de connaître cet artiste et de le rendre accessible au grand public.
Moi, je trouve ça vraiment génial.
Et puis ça participe aussi à l'attachement au quartier, parce que là on a vraiment cette thématique de l'eau qu'on a avec le canal, avec le plan d'eau, et donc on la retrouve dans la cascade, et c'est vrai que les clients nous disent on se sent du quartier de Grand Canal aussi à travers cette œuvre d'art monumentale.
Alors il y aura aussi des profils, puisqu'on nous pose encore des questions, mais on va faire le tri, des personnes qui cherchent à louer des appartements dans le coin, en neuf, j'aimerais qu'on parle du profil pour terminer cette partie, des investisseurs ou des primo-accédants. Ce qu'on appelle les primo-accédants, c'est ceux qui s'installent, qui font leur premier achat. On a des pourcentages, on peut profiler.
On a à peu près 40 à 50% d'investisseurs, et le reste, donc c'est vraiment de la résidence principale.
D'accord.
Et alors, l'origine est très variée, donc nous avons aussi bien des primo-accédants qui viennent
un premier achat immobilier,
qui est plutôt du coup sur un studio de pièces. Nous avons beaucoup d'achats-reventes, donc des personnes qui revendent des surfaces à Paris, sans espace extérieur, et qui viennent un peu pour refranchir le périphérique et avoir une plus grande surface, une vraie terrasse.
C'est plus intéressant financièrement.
Exactement.
C'est neuf.
Oui.
Vous en avez beaucoup comme ça, des Parisiens qui viennent ?
Ah oui, ils sont très agréablement surpris par les espaces extérieurs, par la baisse des charges qu'ils n'avaient.
Ah,
voilà.
Et puis,
un immeuble neuf, c'est un ascenseur qui n'a pas de problème tous les 6 mois. C'est des parties communes qui sont neuves. Nous, en plus, travaillons beaucoup avec nos architectes pour intégrer cet esprit art déco également dans les parties communes, donc avec des halls un peu majestueux. Mm-hmm. Pour vraiment aussi faire rentrer l'artistique de la façade jusque dans les parties communes.
Mais justement, donc 40 à 50% d'investisseurs, donc une fois... résidence principale, une fois sur deux, quoi,
voilà,
en exactement. Moyenne. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle aussi pour les locataires et ceux qui vont prendre à bail, parce que tout ça sera loué à des personnes qui vont vivre à l'intérieur. Non, mais c'est important, parce que tout le monde n'a pas forcément, vous êtes d'accord, les moyens de, d'accéder à la propriété. Vous savez que c'est l'achat d'une vie, hein, c'est le, ouais, d'ailleurs le premier besoin et le premier poste de dépense des Français. Aujourd'hui, c'est le logement, on le sait, et ouais, le logement est un vrai sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un flux dans la ville de Clamart, ouais, de logements neufs, locatifs, qui seront mis sur, oui, le marché.
Et si je puis préciser, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce ne sont pas que des studios. Donc nous avons de l'investissement libre en T2 et en T3 également, pour loger des familles. Donc c'est vraiment un investissement qui
c'est
se fait après pour une location pérenne.
Sûr.
Donc des familles restent 2, 3, 4 ans dans un logement en location.
Alors, est-ce qu'on a une idée des valeurs locatives? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 indications pour que ceux qui souhaiteraient louer éventuellement, mais comme les investisseurs, parce que je pense que les investisseurs, quand ils veulent acheter, ils vous demandent quelle est l'estimation du rendement locatif, je suppose?
Tout à fait, oui. Donc, pour un studio, on est autour de 24 euros du mètre carré en valeur locative. Donc, c'est plutôt très intéressant.
Ah bah oui, quand on compare
par rapport au prix d'achat.
À Paris, ça peut monter jusqu'à 40. J'ai vu, là, on avait fait une salle dans un quartier, un beau quartier, mais on était monté quand même à 39 euros du mètre.
Oui.
C'est juste, il n'y a pas photo, quoi.
Oui, tout à fait.
Là, on est du 9, on est à 24 euros du mètre, c'est très abordable. Et pour un 3 pièces, on est à peu près
combien? Pour un 3 pièces de 65 mètres carrés, on sera à 18 euros du mètre carré.
Et c'est hyper intéressant.
C'est très intéressant pour des locataires, mais tout à fait. Oui.
On est compte. C'est... Donc, c'est important parce que ça permet à des classes moyennes de ne pas fuir même la première couronne ou la deuxième couronne, quoi. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut bien qu'un jour tous les Français puissent se loger. Dans ce que vous faites, effectivement, vous avez cet axe de loger les Français, quelle que soit leur situation aussi.
Oui, tout à fait. Nous essayons en accord un peu avec les maires, hein, qui nous demandent également de pouvoir reloger sur leur commune des personnes qui voudraient passer du 2 pièces au 3 pièces ou du 3 pièces au 4 pièces en restant sur la commune, parce que la commune leur plaît et qu'ils auront trouvé les services qui leur vont bien. Donc voilà, c'est vraiment aussi un travail collectif avec les mairies. Quelquefois, nous passons en libre des personnes qui étaient en parc social, puisque cela leur permet d'avoir des loyers raisonnables.
Et ce que vous dites est fondamental. Ça fait sortir des personnes du parc social, entre guillemets, hein, ouais, pour arriver dans ce qu'on appelle le logement libre. Donc ça crée de la rotation dans le parc social.
Exactement.
Pour d'autres qui en ont besoin.
Oui.
Et c'est ça le but du parc social, c'est de sortir un jour et d'aller finalement dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'intermédiaire. Voilà.
Ouais.
Si je devais faire une insertion. Il est l'heure de nous quitter. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais qu'on fasse une petite conclusion, si vous voulez bien. Je vais commencer par vous, Delphine. In fine, quand on voit justement ce projet global, de la même façon que je vous ai posé lorsqu'on a commencé cette émission, vous vous dites « Waouh, quand même, beau projet ».
Oui, évidemment, beaucoup de satisfaction, comme l'exprimait Géraud en introduction. Et puis, moi, ce que ça m'inspire, j'ai envie de passer dans la bulle de vente et écouter les futurs acquéreurs parler du quartier. Je pense que, voilà, cette parole, elle est importante. On parle de la satisfaction client, mais en tout cas, essayer de décrypter ce que les futurs acquéreurs peuvent penser du quartier.
D'ailleurs, la satisfaction client, vous prenez un soin particulier, non seulement à l'affaire, mais à la vérifier avec des tiers de confiance.
Oui, complètement. Et en tout cas, voilà, entendre ce qui peut motiver une acquisition sur le quartier, cette parole-là m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je ressors avec cette idée-là.
Ça fait plaisir puisque on sent effectivement que vous avez la passion chevillée au corps et ça, c'est extrêmement agréable. Aude, justement, quelques mots de conclusion. Alors, vous nous avez dit on peut aller sur Internet pour trouver les infos sur le programme. Le mieux, c'est de se déplacer.
Le mieux, c'est de se déplacer.
C'est
se déplacer parce que vous pourrez visiter le quartier, comme nous avons déjà livré plusieurs programmes, et que les espaces publics sont très avancés. Le canal vous donnera envie de vous projeter dans ce quartier.
Le tramway est déjà opérationnel.
Vous pouvez venir en tramway.
Ah ouais, mais c'est génial. La bulle de vente, on va rappeler l'adresse. 393
rue du Général de Gaulle.
Rue du Général de Gaulle à Clamart.
Bien sûr.
Voilà, c'est à côté du tramway.
Dans un futur commerce du quartier.
Voilà. On ne sait pas ce que ça va devenir comme commerce, on ne sait pas encore.
Celui-là, non, je ne sais pas encore.
En tout cas,
pour l'instant, c'est notre bulle de vente.
Et puis, on n'est pas très loin du centre-ville non plus.
On est tout près du centre-ville.
Tout près du centre-ville et des services publics. C'est important aussi de le rappeler. Géraud, voilà, in fine, quand vous voyez ce programme, fierté quand même.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est fierté. Fierté d'avoir contribué à créer tout un quartier de ville. Et les premiers tours sont intéressants parce qu'on voit que le quartier commence à prendre vie. Alors il y a des choses qu'on avait anticipées, des choses qu'on avait moins anticipées. Et donc on voit les gens qui s'approprient le site. Et ça, c'est quand même très sympa pour nous parce qu'on voit qu'il y a une sorte de passage de témoin. On a beaucoup travaillé, réfléchi collectivement pour que les gens s'y sentent bien. Et on sent que ça commence petit à petit à prendre vie. Et pour nous, c'est tout le... toute la fierté de notre métier.
Alors moi, je vous propose que pour nous quitter, je vais demander à Jason de nous remettre la vidéo de la fresque monumentale de Sous Package et Coralie, quai 36, un immeuble, une œuvre. Je vous propose qu'on se quitte sur une touche culturelle d'accès justement à l'art pour tous et pour tout le monde. C'est extrêmement important. 393 rue Charles de Gaulle à Clamart, c'est là où vous devez aller pour visiter votre futur bien ou aller tout simplement prendre les informations sur ça sur internet. Merci à Delphine Boutier, voilà Delphine Boutier qui est directrice opérationnelle chez FH Aménagement. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, surtout vous ne changez rien. Aude Desmazières, directrice de programme chez FH Immobilier en Ile-de-France également, et Géraud Duhard, qui est directeur opérationnel chez FH Immobilier en Ile-de-France. Merci à vous trois. Merci. Et je vous propose qu'on se quitte sur ces images magnifiques d'une fresque monumentale.
Spécial lancement de la dernière tranche du quartier Grand Canal à Clamart, un événement FH Immobilier Radio Immo.